Une autre voix singulière, celle de Clara Lecoq-Réal pour le journal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La confiance est rompue entre le gouvernement et la police. Réunion à haut risque à partir d'aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Les syndicats de policiers vont y défiler en pleine accusation de racisme dans leur rang. Ils parlent d'un sentiment d'écœurement, vous l'entendrez.
Et puis nous analyserons aussi la prévision du ministère de l'Économie. 800 000 emplois pourraient être supprimés en France. Une crainte, la fin du chômage partiel.
En Chine, on mise sur la vente en ligne pour relancer l'économie. Même les fruits et légumes sont concernés par cette vente en ligne. Nous irons sur place.
Et puis, retour à Paris à 2 semaines du second tour des municipales. Les adversaires de la maire sortante, Anne Hidalgo, fourbissent leurs armes.
Dans une douzaine de minutes, Guillaume, votre question du jour ?
Sur la guerre en Libye, Clara, quel rôle joue la Turquie et la Russie ? Nous poserons la question à Jalel Archaoui, il est chercheur à l'Institut des Relations Internationales aux Pays-Bas.
Un divorce en l'espace de 48 heures à peine. Depuis les annonces de Christophe Castaner, principalement sur des suspensions systématiques en cas de soupçons avérés de racisme, les policiers sont passés de la stupéfaction à la colère. Colère inédite, colère froide, que le ministre de l'Intérieur va tenter de calmer aujourd'hui et demain en recevant les représentants des syndicats de policiers. Mais c'est déjà trop tard, lui répond cinglant le secrétaire général du syndicat des officiers Synergie CFE-CGC, Patrice Ribéry.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a une panique au plus haut niveau de l'État parce que le ministre de l'Intérieur, mais pas seulement lui, vraisemblablement le président de la République, se rendent compte de l'émoi et de l'écœurement qui circule aujourd'hui dans les rangs de la police nationale, quel que soit le grade, et je pense qu'il est en train de rétro-pédaler. Mais à mon avis, c'est trop tard. Christophe Castaner a, dans la précipitation, fait des annonces qui, au-delà des annonces techniques, qui laissent à penser que les gens qui nous fustigent, qui nous stigmatisent, qui nous conspuent, finalement ont eu raison au plus haut niveau de l'État. Et ça, les policiers ont l'impression, d'une part, d'un aplaventrisme, et d'autre part, d'être lâchés en race campagne. Et on le voit déjà, on a au quotidien, dans toute la France, des collègues qui se sont abstenus de faire des chasses, qui se sont abstenus de poursuivre des véhicules, qui se sont abstenus d'interpeller des individus qui les insultaient. Là, c'est vraiment un sentiment d'écœurement. On n'a pas connu ça depuis des années. Tant que la situation n'est pas clarifiée au plus haut niveau de l'État, il n'est pas question que nos collègues se mettent en danger juridiquement. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie rupture entre le ministre de l'Intérieur et les policiers de terrain.
Des propos recueillis par Emmanuel Leclerc, alors qu'hier soir, des dizaines de policiers mettaient menottes à terre, se disant écœurés par les critiques à leur encontre en ce moment. Pendant ce temps, dans d'autres villes, des rassemblements avaient lieu justement contre le racisme au sein des forces de l'ordre et les violences policières. Manifestations notamment à Brest ou à Lille. Et puis sachez que ce jeudi matin, le Conseil d'État examine le recours déposé par la Ligue des droits de l'homme et certains syndicats. Tous lui demandent de lever l'interdiction de manifester due à l'état d'urgence sanitaire. État d'urgence qui sera levé le 10 juillet prochain, mais le Premier ministre pourrait encore jusqu'en novembre limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique. L'audience du Conseil d'État est prévue à 9h tout à l'heure. Le ministère de la Justice revoit sa copie sur un décret polémique à propos des violences conjugales. Rétropédalage expliqué hier soir dans un communiqué de presse. Le décret en question compliquait en fait la délivrance d'ordonnances de protection pour les victimes de violences conjugales. Explication ce matin de Margot Delpierre.
Le décret date du 27 mai, mais au début il est passé inaperçu. Il doit permettre d'appliquer la proposition de loi du député LR Aurélien Pradier. Son texte, adopté en décembre, réduit à 6 jours le délai qu'a un juge pour statuer sur une demande d'ordonnance de protection. Le décret actuel prévoit que la victime a de son côté 24 heures pour informer son conjoint ou son ex de la procédure par huissier. Une démarche compliquée et coûteuse pour les victimes souvent vulnérables et qui ne connaissent pas toutes le fonctionnement de la justice, estiment des associations. Anne-Cécile Maillefer préside la Fondation des femmes.
Vous avez 24 heures pour le faire et si vous ne le faites pas, toute la procédure de protection tombe par terre, il faut tout recommencer. C'est un petit changement, un petit grain de sable qui vient vraiment mettre à mal toute la machine de protection des femmes victimes de violences. On a vraiment l'impression qu'il y a un espèce de déconnexion déconnexion totale entre l'administration judiciaire et la réalité d'une femme victime de violence qui a besoin d'être protégée.
Le gouvernement a entendu hier des associations, huissiers, avocats, magistrats sur la question et finalement, sur la base de leurs recommandations, la période pourrait être allongée de 24 à 48 heures. Le dispositif devrait aussi être financé par l'aide juridictionnelle pour résoudre la question du coût. Les huissiers se disent prêts à s'engager afin d'assurer cet objectif. Un nouveau projet de décret sera donc proposé à la fin du mois.
J'ajoute que le gouvernement va augmenter par ailleurs de 4 millions d'euros ses subventions pour aider les femmes victimes de violences. Cela représente une hausse de 13% du budget du secrétariat d'État et cela s'inscrit dans le nouveau projet de loi de finances 2020.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal, un projet de loi présenté hier en Conseil des ministres.
Oui, pour un total d'environ 45 milliards d'euros. Cela englobe les aides exceptionnelles apportées au secteur du tourisme, de l'aéronautique, de l'automobile ou du livre en cette crise économique. S'y ajouteront des mesures en faveur du petit commerce ou du bâtiment dans les jours à venir. Car il y a effectivement une urgence économique après la crise sanitaire. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, indiquait hier que 800 000 emplois pourraient être supprimés dans les prochains mois en France. D'autant que le dispositif de chômage partiel, qui représente une aide de 30 milliards d'euros actuellement, ce dispositif devrait se réduire petit à petit. Une équation difficile à résoudre, selon Éric Heyer, économiste à l'OFCE.
Le dispositif de chômage partiel a un grand coût pour les finances publiques aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui présenté. Depuis le 1er juin, on est passé à 85%. Et donc, petit à petit, on va réduire les aides et le reste à charge pour les entreprises va être de plus en plus élevé. Donc, c'est ça l'enjeu, jusqu'où on peut descendre et à quelle vitesse on doit retirer cette béquille qui a permis tout de même à l'économie française de limiter la casse en termes de destruction d'emplois. Et vous voyez que d'un côté, on limite les destructions d'emplois, mais de l'autre, on creuse les déficits. Et donc, c'est cet arbitrage qu'il va falloir faire. Et donc, tout va dépendre du rebond économique. Plus ce rebond sera conséquent, moins ces béquilles seront nécessaires.
C'était Éric Heyer au micro d'Hakim Kasmi. Un œil à présent vers la Chine qui a relancé son économie un peu avant tout le monde, ayant été touchée en premier. Pour stimuler la consommation face à une chute drastique de ses importations, les provinces chinoises développent la vente en ligne soutenue par le gouvernement. Exemple, ce matin dans une conserverie de fruits où s'est rendue notre correspondante Dominique André.
Pingu est la première région productrice de pêche en Chine. Au pied des montagnes s'étendent à l'infini près de 12 000 hectares de pêchers. Il va bientôt être temps de cueillir et de vendre ces fruits que les Chinois aiment consommer pour leur santé. Mais cela ne suffira pas cette année. Xiong Yutin est le directeur d'une conserverie de 14 employés. Il a bouleversé ses méthodes de vente pour que son entreprise et les agriculteurs de la région gagnent de nouveaux marchés.
Avec l'arrivée brutale de l'épidémie, les ventes se sont effondrées. J'ai tout de suite profité des aides gouvernementales. Les prêts bancaires sont bien pratiques. J'ai droit à une réduction des frais d'électricité et d'eau. Bientôt, c'est la saison des pêches. Les chefs de la mairie vont nous aider à vendre en ligne, dans le pays et à l'étranger.
Dans sa petite exploitation, M. Wei est un peu dépassé par ce programme de vente en ligne auquel il ne peut pas échapper cette année.
J'ai un demi-hectare, je produis 15 000 kilos de pêche. Je suis vieux, je ne sais pas comment vendre ces pêches en ligne, mon fils s'en occupe. J'ai travaillé tout seul dans les champs pour réduire les pertes, avant je n'avais aucun souci.
Vendre en ligne fait partie des 10 nouveaux métiers soutenus par le gouvernement chinois. Des formations sont organisées dans toutes les provinces pour vendre en Chine et à l'étranger.
Aux États-Unis, après la mort de George Floyd dans la foulée du mouvement antiraciste et malgré les protestations grandissantes, Donald Trump n'a pas voulu faire de pas en avant. Le président américain a refusé hier de rebaptiser des bases militaires honorant des généraux sudistes. Et voilà qui agace un peu plus l'écrivain égyptien Alaa Alaswani. Exilé aux États-Unis, il publie Le syndrome de la dictature aux éditions Actes Sud, un essai dans lequel il dissèque les rouages des régimes autoritaires et la personnalité de l'homme fort. Scandalisé par la mort aux États-Unis de George Floyd, Alaa Alaswani ne décolère pas contre le président américain. Il l'a dit à Christian Chesneau.
Interdit de télévision et d'écriture en Égypte, Alaa Alaswani s'est exilé aux États-Unis, un pays qu'il connaît bien puisqu'il a fait ses études de chirurgie dentaire à Chicago avant d'entamer sa carrière d'écrivain. Et l'Amérique de Trump pourrait être un sujet de roman.
Ça m'inspire, oui. C'est historique. Ce qui se passe maintenant, c'est ce qu'on appelle en anglais « turning point ». C'est que l'Amérique deviendra quelque chose d'autre.
Comme partout dans le monde, l'assassinat de George Floyd a choqué le romancier égyptien. Alaa El Aswani dénonce la rhétorique xénophobe de Donald Trump, un président qui n'hésite pas à jeter de l'huile sur le feu.
Monsieur Trump, il a toujours parlé avec un discours raciste, pas seulement contre les Arabes, pas seulement contre les musulmans, contre les Mexicains, contre les Indiens, contre les Noirs, les Chinois, contre tout le monde. Alors ce qui se passe, c'est que les racistes, qui étaient toujours racistes, maintenant, ils sentent qu'ils sont soutenus. Alors je pense que ce que M. Trump a fait, c'est qu'il a ouvert l'abcès du racisme.
Pour Alaa El Aswani, le meilleur remède qu'il préconise pour traiter cette plaie ouverte, c'est une justice égale pour tous.
Alaa El Aswani qui était donc de passage à Paris, en entretien à retrouver sur franceculture.fr. Restons à Paris, à un peu plus de 2 semaines du second tour des municipales. La campagne a repris et les invectives aussi. La maire sortante socialiste Anne Hidalgo fait la course en tête. Elle est maintenant alliée aux écologistes. Mais ses adversaires, Rachida Dati chez les LR et Agnès Buzyn pour La République En Marche, refuse de s'avouer vainqueur aux Rosalie Lafarge.
Le pas rapide et le sourire derrière le masque, Rachida Dati va à la pêche aux voix dans les rues de Paris.
Non, mais vous votez où ?
Dans le 11e.
Vous avez beaucoup de familles là qui votent ?
Et face aux habitants ou aux commerçants, la candidate Les Républicains n'oublie jamais d'étrier sa concurrente.
Et la maire de Paris ne vient pas vous voir ?
Bah ça !
L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy en est persuadée, son heure est venue, mais pour ça, elle a besoin des voix d'Agnès Buzyn.
La dynamique, elle nous est favorable. Pour amplifier cette dynamique jusqu'à la victoire, il faut voter utile et efficace. Celui qui votera Buzyn met un bulletin de plus pour Madame Hidalgo.
Réélue dès le premier tour dans le 7e arrondissement, Rachida Dati se voit déjà à la mairie centrale. Elle ne devrait pas s'emballer, insistent les soutiens de la maire sortante. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, en tête.
Elle a une vision pour Paris qui se limite à dire qu'il faudrait faire tout l'inverse, toujours, de ce que fait Anne Hidalgo. Sur tous les sujets qui intéressent très directement les Parisiens, elle a chaque fois été contre, avant d'admettre que Anne Hidalgo avait eu raison. Et elle continuera à le faire très bien dans l'opposition.
Et dans tout ça, chez les LR comme au PS, on semble un peu oublier l'existence d'Agnès Buzyn. La candidate En Marche est pourtant bel et bien encore là.
J'ai une énergie folle pour pouvoir chercher des voix.
Et l'ancienne ministre de la Santé en a d'ailleurs un peu marre du discours qui la place hors jeu.
Il y a un électorat qui veut que cette voix de la majorité présidentielle soit portée à Paris. Un match n'est jamais joué d'avance et si on écoutait cette voix-là, il n'y aurait jamais de deuxième mi-temps.
Mais même au sein de son équipe, certains semblent avoir déjà raccroché les crampons. Dans un SMS révélé par la presse, la secrétaire d'État Marlène Schiappa juge la victoire de sa candidate tout simplement impossible.
C'était Rosalie Lafarge qui nous emmènera dans le journal de 18h ce soir dans le 5e arrondissement parisien avec une bataille dans la bataille. Les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan sont en vigilance orange, pluie et inondation ce jeudi car une nouvelle perturbation arrive par l'ouest. Ce matin, comptez donc 13 degrés à Rennes, 14 à Bordeaux, 16 à Strasbourg et Lyon, 19 degrés à Paris, 21 à Marseille.